France Culture.
h13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
Quand un fou sans Dieu rencontre le fou de Dieu, le romancier espagnol Javier Cercas s'est vu proposer par le Vatican d'écrire sur le pape François. Il sera mon invité à partir de 13h pour en parler. Mais d'abord, et comme chaque jour, pardonnez-moi, on commence avec notre plateau de critique. Aujourd'hui, on vous emmène en Estonie et en République tchèque avec un hommage du chef d'orchestre Paavo Järvi au compositeur Arvo Pärt et le quatuor Talisch qui se pique de musique tzigane. Vous avez demandé les midis de culture, ne quittez pas. Et je les imagine écoutant ces disques au calme, peut-être dans la pénombre, qui sait, les critiques du jour. Emmanuel Giuliani, journaliste à La Croix, bonjour.
Bonjour Marie.
Zoé Sfès, productrice de la série musicale Le Samedi de 17h à 18h sur France Culture. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à toutes les deux. Il fête ses 90 ans aujourd'hui même. Il est, après John Williams, le compositeur contemporain vivant le plus joué au monde. On retrouve sa musique à la fois mystique et immédiatement compréhensible dans une foule de films. Arvo Pärt est mis à l'honneur par ses compatriotes dans un disque qui sort chez Alpha Classique. Credo Arvo Pärt, joué par l'Estonian Festival Orchestra sous la direction de Paavo Järvi. Et c'est peu de dire que le chef Paavo Järvi sait de quoi il parle. Il a été littéralement bercé par la musique de Pärt, grand ami de son père. Il connaît aussi très bien l'histoire de cet homme dont la première œuvre, créée en 1968 dans une Estonie soviétique, lui vaudra les foudres du parti et le contraindra à l'exil. Cette œuvre est présente d'ailleurs sur le disque dont nous allons parler avec votre morceau qui montre l'évolution du maître. Un mot rapide pour commencer, Emmanuel Giuliani.
Vous l'avez dit, c'est vraiment un hommage à plusieurs titres. D'abord, en effet, à ce compositeur qui est à la fois aimé, parfois controversé, parce que les amateurs, les mélomanes et amateurs de musique contemporaine ne sont pas tous d'accord sur Pärt, pour des raisons, j'allais dire, d'idéologie esthétique et pour des raisons de goût, on y reviendra peut-être, mais il déborde largement, un peu, vous avez dit John Williams, on peut dire Phil Glass aussi, pour si on va aux États-Unis, il déborde le sanctuaire de la musique classique à travers, en effet, une diffusion par le cinéma, la publicité et d'autres médias, qui fait que c'est un des compositeurs contemporains connus hors du cercle des mélomanes. Et puis, il a une histoire personnelle qui est d'ailleurs, là aussi vous l'avez dit Marie, vraiment parallèle à celle de la famille Järvi, Neeme Järvi le père et ses deux fils Paavo et Christian, qui vraiment ont suivi les faveurs, la grande défaveur, puis le retour en grâce d'Arvo Pärt.
Zoé Sfès.
Alors oui, c'est...
En quelques mots pour commencer.
En quelques mots, ouais, c'est-à-dire que c'est un album qui, je trouve, remet... Donc, il a 90 ans aujourd'hui, Arvo Pärt. C'est effectivement cet immense, célébrissime compositeur qui est aussi, pour certains et pour certaines, un grand inconnu parce qu'à la fois, il est l'homme qui invente ce style Tintinnabuli, on va y revenir. Et donc, c'est des musiques que vous avez entendues 1000 fois chez Terence Malick, dans des pubs même de voitures. Et donc, que vous aimiez ou pas, vous connaissez sa musique. C'est une musique dite minimaliste, mais en réalité, elle est plus complexe que ça. Et ça restait encore pour moi un assez grand inconnu du point de vue de concrètement c'est l'endroit d'où il composait, puisqu'à un moment donné, il a arrêté l'histoire, il est sorti de l'histoire au sens Fukushima de la musique occidentale, il a arrêté de parler, c'est par ailleurs un homme qui parle très peu, donc c'est assez compliqué il y a cette espèce de mystère du silence qui peut le faire apparaître de loin comme effectivement une espèce de néo-médiéviste que vous connaissez par cœur mais qui vous intéresse pas beaucoup. Cet album, qui a des défauts parce que c'est très sage, a le mérite de le replacer d'une certaine manière dans une certaine histoire de la musique occidentale, d'une part en donnant ce credo, et on va revenir sur l'importance de cette œuvre, mais aussi en nous livrant des œuvres qu'on connaît hyper bien de lui, souvent sur des versions orchestrales, alors qu'on les connaît plutôt avec piano et violon, par exemple. Et donc, ça le réinscrit comme ça dans une espèce... On entend le compositeur qu'il est, on l'entend dialoguer avec bien d'autres gens, et donc, c'est une espèce de présentation assez amoureuse, mais aussi peut-être un peu calme, parfois, on peut le regretter, mais très amoureuse et très sympathique d'un compositeur qui nous apparaît dans toute sa longue traversée, et donc en ça, c'est un disque plutôt très intéressant et qui vaut le coup, ne serait-ce que pour le credo.
Alors, on va écouter un extrait, c'est celui que vous aviez choisi, Emmanuel Giuliani. Ça secoue, hein, Emmanuel.
Oui, oui, oui.
Pourquoi vous avez choisi cet extrait en particulier ?
Alors, parce que c'est très caractéristique et à la fois très exceptionnel dans une œuvre qui dure entre 12 et 15 minutes selon les interprétations et qui est vraiment une œuvre circulaire qui commence, si on avait écouté le tout début,
là, c'est credo,
on
hein,
se serait
d'accord.
Le credo. Voilà. On se serait dit ah bah tiens, je suis dans l'Ave Maria de Gounod, c'est du Mozart ou du Haydn. Bientôt on entend au piano le premier prélude du premier livre du clavier bien tempéré de Bach. Donc on est dans un univers totalement référencé classique. Et puis, l'œuvre évolue avec des interventions vocales qui sont coupées, comme on se coupe la parole dans une conversation un peu animée, par l'orchestre, par le piano, et on arrive à cet énorme cluster complètement où les voix ne chantent plus, elles parlent, où les instruments ont l'air de faire, et c'est pas du tout le cas, bien sûr, n'importe quoi, comme on le dirait un petit peu vite, et on reviendra à la fin, on réentendra le prélude de Bach, etc. On reviendra à la fin, à la forme première. Donc, on boucle la boucle. Et donc, cet extrait me semblait tout à fait emblématique du climax d'une œuvre qui aura commencé et qui finira très, très différemment et qui peut-être, alors, peut-être que c'est un peu tiré par les cheveux, mais correspond aussi à ce qu'est la fortune d'Arvo Pärt, qui commence comme un jeune compositeur. Il a une trentaine d'années, un peu plus, quand il compose cette œuvre, et que cette œuvre est créée par Neeme Järvi, donc le père du chef d'orchestre Paavo Järvi, et qui aura une période extrêmement troublée où il choisit de se retirer, et esthétiquement, et politiquement, et physiquement, comme vous l'avez dit, Zoé, pour revenir maintenant dans le concert apaisé des compositeurs que l'on aime, qui comptent et qui sont programmés un peu partout dans le monde.
Qu'est-ce qu'il y avait dans cette œuvre, le credo, qui a pu, à ce point, lui apporter cette déchéance ?
Bah, c'est un peu le triple problème de d'Arvo Pärt à ce moment-là. Alors moi j'ai fait une émission dessus et j'ai moi-même découvert en réalité qui était cet homme qui a quand même grandi au bord de l'Estonie, dans la nature. Donc il y a toute une espèce de fabula comme ça de la genèse qui va évidemment faire écho à la musique qu'il écrit plus tard, mais qui en fait vit une vie assez banale de jeune compositeur qui est très doué et qui s'inscrit dans l'histoire de la musique. C'est-à-dire que donc là il est dans sa période, il a une période musique sérielle et une période musique dodécaphonique, et donc là on a vraiment la rencontre de tout ça. Il se trouve qu'on est en 68 quand il compose cette œuvre. Il lui est déjà arrivé l'espèce d'épiphanie fondamentale de ta vie, c'est qu'un jour il va faire du ski de fond et qu'il se retrouve dans le seul monastère orthodoxe de son pays, puisque c'est un pays protestant. Et là il a une épiphanie puisqu'il entend du chant grégorien, et alors qu'il est donc ce compositeur qui écrit déjà beaucoup pour la musique de film, qui a déjà publié d'autres œuvres, il a cette espèce de confrontation avec le début de l'histoire de la musique occidentale. Donc il y a déjà un peu ça en germe dans le credo. C'est pour ça que c'est important, je trouve, de l'entendre, ce credo, parce que c'est pas du tout ce que vous écoutez d'Arvo Pärt quand vous êtes fan. C'est pas ce qui vous arrive sur Spotify si vous le faites, et c'est pas du tout la musique qui intéresse les gens qui le portent à l'écran. Mais néanmoins, c'est vraiment une espèce de genèse de lui, et ça va être un énorme rejet total à triple titre. D'une part, parce que quand même, il est dans une Estonie qui est soviétique et qui considère que les avancées de la musique occidentale Et c'est une époque où Shostakovich va dire que il faut se méfier des dégénérescences de l'art de l'Ouest, et de surcroît, surtout, c'est de la musique religieuse. Et ça, c'est le principal problème. Ensuite, il va se convertir à l'orthodoxie, il va écouter du chant grégorien, écouter du Guillaume de Machaut, se faire mais vraiment une espèce de bain de jouvence de musique grégorienne, et va en sortir le fameux style dit Tintinnabuli qu'il invente, puisqu'entre ça, le credo, et 77, Fouraline, qui est un morceau de piano que vous connaissez forcément, même si vous ne le savez pas, il y a 10 ans où il ne parle pas, où il ne compose pas, et il y a même des années entières où il reste en silence. Encore aujourd'hui, c'est un type qui ne parle pas. S'il parle, c'est par des espèces d'haïkus estoniens qu'il a écrit avant. Et ce qui est intéressant avec ce disque, c'est que voilà, il remet ce morceau-là au cœur. C'est évidemment pour ça que c'est intéressant, parce qu'il y a le lien avec la famille Järvi, mais parce que aussi Paavo Järvi le réinscrit finalement dans l'histoire de la musique occidentale en faisant ça. Et ensuite, il fait un espèce de morceau choisi de chansons, de morceaux de style Tintinnabuli, jusqu'à des très récents, puisqu'il a composé jusqu'en 2019, Arvo Pärt. A priori, il n'est plus tout à fait là, mais il y a encore des morceaux très récents. Et donc, c'est comme une espèce de portrait, comme ça, très symphonique, tout de même. Et il y a quelques morceaux, on va peut-être y revenir, notamment Fratresse, qui est un morceau que vous connaissez forcément dans sa version originale, avec Gideon Kremer et avec Keith Jarrett au piano, qui est un morceau qui a été énormément repris au cinéma, notamment par Terrence Malick, et qui, là, est entendu, normalement, c'est souvent un piano, un violon. Là, on va avoir vraiment une version pour orchestre. Et du coup, on entend des cordes un peu malériennes, c'est ça. C'est-à-dire qu'on entend tout le dialogue avec l'histoire dont il vient, et donc ça le remet dans l'histoire. Et c'est notamment Fratresse, qui est une des plus belles pièces pour moi d'Arvo Pärt, et qui reste un truc complètement bouleversant, qui s'entend autrement avec cet album, et qui vous prend aussi par d'autres biais que celui de la couleur très Arvo Pärt qu'on a l'habitude d'entendre.
Emmanuel Giuliani, justement, sur ce qu'apporte cet album-là, ce disque-là.
Oui, eh ben, c'est vrai, on peut faire une traversée. Ça pourrait être, il a un côté très pédagogique, ce disque, avec une première initiation à sa musique, qui permet aussi de retrouver, même au fil des ans, certaines de ses prédilections. Par exemple, on pourrait faire un jeu chercher les cloches. Les cloches, qu'elles marquent le début, par exemple, de son hommage à Benjamin Britten, qui est vraiment une entrée avec des cloches comme un glas, mais pas un glas triste, un glas apaisé, un glas du souvenir et de la nostalgie. On les trouve aussi de manière plus ténu, mais à la fois plus pulsatile dans Mein Weg, pour marquer la marche le côté processionnaire. Donc voilà, on se dit, ah bah tiens, j'appréhende l'univers de ce compositeur à travers son goût sonore, qui a un rapport aussi avec la mystique, avec l'Église, enfin comme Zoé l'a dit. On a aussi, parce que ce sont des versions, donc pour orchestre, un traitement des cordes et des irisations de cordes absolument magnifique. Alors, en effet, peut-être un peu trop beau par moment, parce que Paavo Järvi a une vision extrêmement à la fois respectueuse, d'un esthétisme absolu, qui enlève peut-être par moment un peu de, comme quand on fait un très beau dessin et on aimerait que ça déborde un petit peu de la ligne de temps en temps. Et ça ne le fait pas. Ce qui fait que ça peut donner un aspect plus décoratif que profond à certaines des pièces. Moi, je trouve par exemple que c'est le cas pour Für Lennart, qui est un hommage donc à Lennart Meri, qui était un compositeur et qui a été le président de la République estonienne et qui était un ami d'Arvo Pärt. Et c'est une pièce extrêmement, presque sentimentale, et on sent là que Paavo Järvi retient un peu les chiens pour ne pas tomber justement dans du sentimentalisme. Mais là, j'aurais aimé un côté un peu plus tchaïkovskien, par exemple. Parce qu'aussi, Tchaïkovski est très, très présent.
Très présent. Mais très, ça, c'est très fou. Présent. Avec les cordes, on l'entend beaucoup plus.
On l'entend beaucoup.
Juste rapidement, Zoé, ouais, sur ce côté un peu sage
quand
décevant.
Même, mais à la fois sage et décevant, ça dit des choses des deux hommes. Mais je suis tout à fait d'accord dans le sens où Paavo Järvi, en fait, il a très envie de rendre cette... Alors, je tiens à dire qu'Arvo Pärt a 90 ans aujourd'hui.
Oui,
c'est
oui.
C'est ce jour-là. Et du coup, on sent vraiment, effectivement, une forme de déférence. Et c'est ce qui, à la fois, sort Arvo Pärt de ces sons hyper identifiés pour nous. En gros, c'est devenu pour certains, hein, et c'est vrai, voilà, une espèce de musique pseudo-existentialiste. Là, ce qui se passe, c'est que à la fois, c'est très beau, c'est très sage, on entend beaucoup plus effectivement toutes ces relations avec la musique occidentale de manière générale. Mais du coup, il y a ce que Paavo Järvi et dans Arvo Pärt écrit, toujours cette place, il le dit, on l'entend, tout le monde le sait, pour le silence, pour le doute, c'est peut-être aussi tiré à l'extrême ce qui fatigue, tant on a l'impression que c'est un doute programmé si on en écoute trop ou si on l'a trop subi, cette musique. Là, il n'y a plus du tout de doute dans cet album, en réalité. On n'entend pas le silence, on n'entend pas tout à fait la fragilité et l'angoisse, parce que c'est souvent des morceaux qui parlent de l'absence, qui parlent et qui tentent de consoler. Il y a une espèce d'acmé comme ça qui tente une consolation finale. Là, il n'y a pas vraiment de consolation finale, il y a comme une espèce de glorification. C'est parfois un peu dommage, mais ça reste néanmoins, je trouve, fondamentalement assez intéressant.
Et Credo. Très belle prise de son.
Très belle,
et prise, belle de prise de son. Credo, Arvo Pärt, dirigé par Paavo Järvi, sorti chez Alpha Classics. Emmanuel Giuliani, vous avez un coup de cœur à partager avec nous cette semaine.
Oui, alors on vient de parler d'un compositeur de 90 ans, et alors on fait vraiment, là, on va dans la prime jeunesse d'une interprète, Ariel Beck, qui est toute jeune, puisque ce disque qui sort aujourd'hui, en ce moment, qui s'appelle Des Lunes et des Feux, et qui est le premier disque de cette jeune pianiste. Elle l'a enregistré quand elle avait 15 ans. Là, elle en a 16 ou 17.
Oui, elle est vraiment très très jeune.
Elle est très très jeune. Alors, quand on parle de pianiste très très jeune, on dit, oh là là, c'est formidable, étonnante maturité. Je vais essayer de ne pas entrer là-dedans pour ce coup de cœur et de dire surtout ce qui est frappant, et on va peut-être l'entendre tout de suite, c'est véritablement l'aisance, le ton juste et le tempo irrésistible de cet artiste. Là, on entend le début du Capriccio, du deuxième Capriccio dans les Klavierstücke opus 76 de Brahms. C'est un disque très romantique, puisqu'on commence avec Schumann, on enchaîne avec Brahms, puis avec des variations composées par Ariel Beck elle-même et qui sont très intéressantes et tout à fait à la fois personnelles et pleines d'affection pour ce répertoire romantique. Et véritablement, là aussi, une très jolie prise de son. J'invite tout le monde à l'écouter, à aller l'entendre également en concert. Elle va être à Cancale dans le cadre du festival Via Eterna le 3 octobre, puis au Théâtre des Champs-Élysées le 12 octobre. Et on aura, je pense, une formidable découverte avec un très beau son, une grande éloquence, et puis elle évite totalement l'écueil que peuvent avoir des très jeunes musiciens ou être un peu encore très grand technicien, mais un peu coincé aux entournures musicales, si vous me permettez l'expression, ou alors au contraire en faire beaucoup pour montrer tout de suite qu'on a une grande personnalité. Elle, j'allais dire, elle l'est, et nous avec elle.
Ariel Beck, Des Lunes et des Feux chez Mirard. Quand le Quatuor Talisch se plonge dans le répertoire folklorique de la Mitteleuropa, ça donne ce disque Gypsy Melodies, sorti chez la Dolce Vita. Le Quatuor Talisch a derrière lui déjà une longue histoire. Il a été créé à Prague au milieu des années 60 et il a acquis une solide réputation pour ses interprétations de la musique de chambre classique et romantique. Mais en bande tchèque, les Talisch ont aussi consacré de nombreux enregistrements à Jana Tchèque, Dvorak, deux compositeurs que l'on retrouve dans ce disque qui osent s'aventurer cette fois dans le domaine de la musique populaire tzigane. Zoé Sfez, quelques mots pour commencer.
Bah, quelques mots, écoutez, c'est moi un répertoire que j'adore, ce répertoire de ce 19e siècle où la Mitteleuropa était ce qu'on appelait le conservatoire de l'Europe. C'est encore de la musique aujourd'hui. Surtout, c'est un move, si on veut parler comme des jeunes, ce mouvement qui a consisté pour tout ces compositeurs à aller se servir parfois, d'aucun dirait d'appropriation culturelle, mais c'est ça qui est passionnant dans la musique dite folklorique. C'est un répertoire que moi j'ai toujours affectionné et qui là, on doit dire, est quand même porté par ce quatuor qui est fort. Donc évidemment, il a été créé en 64, je crois. C'est le fils du fondateur, Jan Talisch Junior, qui aujourd'hui est le premier violon, qui a quand même une couleur comme on en a rarement. Et c'est effectivement très intéressant de les entendre avec cette espèce de double identité qui est en fait propre à ces musiciens, à ces musiciennes de la Mitteleuropa. Ça reste d'une beauté et surtout d'une vivacité, c'est-à-dire que c'est extrêmement vivant sur des musiques qui, je trouve, à chaque fois font une espèce de coup de fouet.
Emmanuel de Giuliani, quelques mots.
Oui, et puis on a vraiment des contrastes d'ambiance qui sont extraordinaires. Tantôt c'est mutin, sarcastique, cocasse. on a aussi des grandes plages pleines de passion, de mélancolie et on est très rêveuse. Et d'une pièce à l'autre, d'un compositeur à l'autre, avec des compositeurs en effet connus comme Dvorak et Janáček ou des moins connus comme Georges Boulanger ou Grigoras Dinicou, on fait en effet un voyage dans cette Mytholo Europa et vraiment on a envie de l'accompagner d'un Wiener mélange et d'un et d'une tarte Esterhazy.
Allez, en attendant le déjeuner, on écoute ce morceau choisi par vous, Zoé Sfez. Béla Bartók, hein, c'est ça?
Bah ouais, voilà, j'ai choisi un peu le tube, je suis désolée. J'aurais pu vous faire entendre Boulanger, mais néanmoins, c'est quand même très intéressant d'entendre ce violon sur cette musique. Donc, Béla Bartók, ils ont beaucoup déjà joué. Dvorak aussi, c'est leur dernier disque, ça a été un immense succès. Donc, ils savent faire, et c'est Mélodie Roumaine, je pense que c'est parmi les plus célèbres. Néanmoins, effectivement, ce violon-là, celui de Jan Talej Junior, il a effectivement cette qualité de contraste complètement dingue, puisque juste avant ça, on l'entend dans des choses beaucoup plus rondes, délicates, sirupeuse, et là il se fait vraiment, et pas non plus, c'est ça qui est très intéressant, parce que c'est aussi des musiques qu'on a beaucoup entendues à la fois au cinéma et puis un peu partout et puis dans n'importe quel concert de médiocre qualité, voilà, c'est un peu le truc qu'on fait, et c'est vraiment fou d'entendre ces qualités de cordes et d'entendre effectivement, c'est un album qui est assez long hein, quand même, puisqu'il y a beaucoup de monde au balcon, d'entendre, et en fait c'est aussi un album qui garde une identité, donc il y a la rigueur, c'est ça leur qualité quand même, c'est qu'ils ont la rigueur des grands musiciens classiques, puisqu'on les a beaucoup entendus dans Beethoven, dans Mozart, etc. Et ils ont évidemment ces qualités mittelroppennes, si on peut le dire. Et c'est intéressant parce qu'on entend très bien dans ces choix de répertoire ce que chacun des compositeurs a été chercher en fait dans ce répertoire dit folklorique. C'est pas du tout la même chose. Et alors effectivement la découverte de ce type Georges Boulanger que je connaissais absolument pas moi et j'en ai honte, qui est un Roumain qui finit sa vie en Argentine, qui écrit des espèces de tubes comme ça, ces fameux tubes qu'on faisait au début du siècle, qui pouvaient être repris beaucoup dans les bals, qui donnaient des ballades, qui donnaient beaucoup de transcriptions. J'ai failli vous les choisir, mais en même temps, elles sont tellement étranges, ces compositions, elles sont à la fois festives, c'est des ballades. C'est effectivement une espèce d'ode à des tubes, et en fait, on voit, je trouve, là je vais partir peut-être un peu loin, mais c'est un album qui nous rappelle ce que l'histoire de la musique produit et sa relation avec la musique populaire. Et c'est toujours, je trouve, un très bel endroit d'aller regarder ce que, dans le passé, des compositeurs ont été cherchés. Comment ils se sont nourris de ces musiques folkloriques? Qu'est-ce que ça donne? Et c'est toujours un espèce de petit pas de côté par rapport à l'histoire de la musique occidentale. Et ça reste, je trouve, un endroit toujours assez juste pour écouter ce que nous, on fait au présent. Voilà.
Emmanuel Jelani.
Oui, je ne saurais pas comment compléter, sinon que la danse est également très présente. C'est un disque, il est difficile de l'écouter en restant assis ou assis sur sa chaise sans s'agiter, mais d'ailleurs pourquoi pas. Et ça, c'est dû en effet, évidemment, à la maîtrise du quatuor Talisch, à la façon de faire rebondir l'archet sur les cordes, à convoquer des sonorités à eux quatre, mais aussi d'autres, puisqu'on a un cymbalum qui vient s'inviter. Alors là, dès qu'on entend le cymbalum, évidemment, tout cet univers réel et fantasmé nous envahit, nous caresse, nous enveloppe, et plus encore. Et véritablement, grâce à cette pulsation qui est toujours présente, même dans les très longs phrasés, très mélancoliques et très sentimentaux, on sent toujours qu'il y a le moteur de la pulsation qui est là. Et ça donne justement, vous dites, c'est un disque un petit peu long, qui pourrait, par des interprètes moins inspirés, devenir un peu répétitif, et ça ne l'est pas, ouais. Parce que dans chaque pièce, on remet en marche ce petit moteur du rythme et de la danse, même extrêmement tendre et voire languide, et qui nous reparle à nouveau, d'où une grande éloquence aussi de ce disque, outre toutes les qualités sonores, et ce violon sur lequel vous insistiez à raison, qui a cette petit grain un peu acidulé, un peu comme quand on mange des groseilles. Il y a le sucre, mais il y a aussi un peu d'acidité. Il repose sur des cordes plus graves, alto et le second violon, bien sûr, mais surtout l'alto et le violoncelle, qui, eux, ont un moelleux incroyable. Et donc, on a là aussi, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être l'heure qui me fait faire des métaphores culinaires. Mais voilà, on a à la fois la double crème et le coulis un peu acide. Ouais. Et voilà.
SOS Fest, vous parliez tout à l'heure de l'appropriation culturelle, mais eux-mêmes se sont posé la question, non, on sait bien que c'est pas ça, mais eux-mêmes se sont posé la question de s'ils étaient à même capables de d'interpréter comme ça l'âme tzigane.
Non, mais alors, en vrai, je crois que c'est surtout, c'est pour le coup quelque chose, c'est un répertoire qui, encore aujourd'hui, est fondamental, en fait, dans l'identité, on allait dire, tchèque, c'est pas du tout une question, puisque quand ils jouent du Dvorak, du Janáček, du Béla Bartók, c'est quand même le fond de la construction même de l'identité de ces compositeurs, et le fond d'ailleurs, et c'est toujours d'une partie de l'histoire de cette région du monde qui a été ce dialogue absolument constant. Donc c'est pour ça que c'est... Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils le font fondamentalement dans un album, et loin de tomber dans quelque chose, comme le disait Emmanuel, d'un petit peu redondant, ou un peu, voilà, le disque qui fait plaisir avec des tubes, d'ailleurs, toute la promo est un peu basée sur ça, ce qui est un peu dommage, d'ailleurs.
Sur des tubes, oui.
Il y a vraiment cette espèce d'écoute, de regarder ce qu'ils ont fait, regarder qui est allé chercher quoi, qu'est-ce que ça donne. Donc, il y a à la fois leur son à eux qui est parfaitement intègre, mais il y a vraiment, je pense, une espèce de déroulé de ces gens ont été chercher, ce que ça sert, de quel côté ça se tourne, parce qu'on, parfois, c'est vraiment plus ou moins assumer ou intégrer cette partie d'Itzigan. Parfois, c'est juste vraiment un prétexte pour faire danser, et on entend vraiment l'identité des musiciens classiques plutôt derrière. À certains moments, notamment sur les danses roumaines, on bascule dans quelque chose de totalement Itzigan avec l'arrivée du Simalon. Et donc, c'est quand même un espèce de point sur qu'est-ce que c'est et c'est quoi le langage musical, de quoi on se sert, qui vraiment, comme ça, au détour d'un petit album qui a l'air simplement de vous vendre des mélodies Itzigan, je trouve, vous fait réfléchir à comment est-ce qu'on se sert de quelle matière, et notamment ce fameux violon Itzigan qu'on a tous subi, qu'on croit tous connaître, et qui quand même arrive à chaque fois, quand on l'écoute vraiment par de bons interprètes, à bouger des choses assez fondamentales.
Gypsy Melody, sortie chez la Dolce Volta et pas Vita, comme j'ai dit tout à l'heure. Zoé Suez, Emmanuel Giuliani, merci beaucoup d'être venu dans les Midis de Culture. Je précise d'ailleurs que le Quatuor Talich sera en concert à La Rochelle, à la Société Philharmonique, le 23 novembre, et le 30, ce sera à Paris, au Théâtre des Bouffes du Nord. Et maintenant, vous qui nous écoutez, eh bien, c'est à vous de vous faire une idée.